Voilà. Eh bien, nous allons passer, après ces points d'information, nous allons passer au point numéro 1, compte administratif. Alors, le compte administratif, le rapporteur est Monsieur Toulouse. Je rappelle que pour le compte administratif, au moment du vote, je sortirai. Attendez, le rapport n'est pas encore lu, madame. Dès qu'on aura lu le rapport, on vous donnera la parole, bien entendu. Mais j'ai donné la parole à Monsieur Toulouse, là.
C'était un autre sujet, Monsieur le maire. J'aurais voulu vous demander exceptionnellement de pouvoir faire une intervention.
Écoutez, vous ferez l'intervention. Je suis très embêté parce que supposons qu'il y ait 55 personnes qui me demandent la même chose, on risque de ne plus avoir un conseil municipal normal. Donc, je vous propose de mettre ça en point, en question diverse. Pardon ? C'est un rappel au règlement ? Le règlement n'est pas bien appliqué ?
Non, c'est un autre point, mais j'interviendrai lors d'un point, monsieur le maire, vous remercie.
D'accord, c'est très bien. Je ne vais pas bloquer le débat, mais effectivement, on ne peut pas laisser libre cours à des points divers, surtout en début de séance. Alors, monsieur Toulouse a la parole.
Merci, monsieur le maire. Donc là, on va examiner le compte administratif 2010, et c'est un moment important, puisque le compte administratif retrace le travail effectué sur l'ensemble de l'année. 2010 a été une année difficile, difficile pour les médecins à cause de la crise économique dont on commence seulement à percevoir les effets aujourd'hui et qui n'est malheureusement pas terminée. Difficile pour la ville avec les restructurations militaires et les premiers effets concrets qui cette fois sont fait sentir. Difficile pour nos finances aussi en 2010, car là on a vu la poursuite et l'accentuation de la diminution des crédits de l'État. Nous avons moins effectivement de crédits d'État qui sont arrivés sur la ville de Metz et il a fallu compenser tout ça. Par exemple, 550 000 euros de DGF en moins, une diminution du FCTVA. Une grosse diminution. Dans ce contexte, et malgré ce contexte délicat, nous avons continué à avancer. Et j'aimerais, en quelques mots, faire un rappel, puisqu'on est maintenant quasiment à mi-mandat. Rappelons-nous de 2008 et du quadruple défi qui se présentait à nous. En 2008, nous avions pris l'engagement et nous avions fait des propositions de transformer la ville, de la sortir de son immobilisme, de la rendre visible et de la rendre attractive, de faire vivre la démocratie locale. Deuxième défi, nous devions rattraper les importants retards sur l'entretien des infrastructures, sur les transports en commun, sur l'entretien et sur la rénovation de notre patrimoine. En 2010, nous devions, et nous avions pris l'engagement, de rendre la ville plus pratique aux médecins, d'apporter des services nouveaux et d'apporter des services de qualité. Monsieur Hettner, je fais comme je l'entends. Merci.
Alors, monsieur Hettner, si vous voulez faire un rappel au règlement, vous pouvez le faire, mais le rapporteur n'est pas tenu de s'en tenir. Non. Le rapporteur peut faire les commentaires qu'il veut, et ça arrive très souvent, même du temps où vous étiez dans la majorité, monsieur Hettner, que des gens améliorent le rapport en considérant qu'ils ont des choses à dire sur le rapport. Alors, la parole est à monsieur Toulouse. Non. Monsieur Toulouse, vous avez la parole.
Merci, monsieur le maire.
Vous étiez en train de dire que l'État nous avait supprimé 550 millions d'euros.
Non, pas millions, 1000. 550 000 euros.
500 000 euros. Alors, monsieur Toulouse, vous pouvez continuer sur les 550 000 euros que l'État nous a supprimés.
Et je voudrais simplement... Voilà, là, explique à monsieur Hettner que je ne lis pas le rapport parce que je pense que consciencieusement, comme tout le monde ici, il l'a fait. Et il n'y a nul besoin de lui infliger une deuxième lecture de tableau chiffré qu'il connaît bien évidemment par cœur, puisqu'il va intervenir très fortement, je pense, tout à l'heure là-dessus. Donc j'en étais à mon troisième défi. Quatrième, développer la solidarité envers tous les quartiers et tous les médecins. Nous étions engagés à faire tout ça en 2008, tout en maîtrisant les dépenses et en assurant une saine gestion de la ville. Nous avons su prendre des décisions courageuses au moment où il le fallait. Et aujourd'hui, avec le budget 2010, avec le compte administratif 2010 tel que nous le présentons, nous pouvons dire que tous les engagements sont tenus ou en passe de l'être. Nous pouvons être fiers du travail que nous avons accompli tout en restant humbles devant ce qu'il nous reste à faire. L'examen du compte administratif 2010 fait ressortir un excédent net de 2 992 000 euros pour le budget principal. Que pouvons-nous retenir de ce compte administratif ? Tout d'abord, la qualité de la prévision budgétaire effectuée par les services de la ville. Cet excédent ne représente que 2% du budget de fonctionnement. Là, on peut féliciter effectivement l'ensemble des services de la qualité de la prévision qu'ils ont effectuée l'année dernière. On peut souligner la maîtrise du budget de fonctionnement, avec en particulier des dépenses de personnel qui, représentant 52,3% des dépenses de fonctionnement, sont inférieures très sensiblement à ce que l'on peut constater dans des villes de même importance et rendant les mêmes services. On peut mettre en avant la vérité et la sincérité que nous avons dans l'élaboration de notre processus budgétaire. On est loin des effets d'annonce précédents. Je vous rappelle que sous la précédente mandature, à peine 40% des investissements votés par le conseil municipal démocratiquement élu étaient réalisés. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 60%. Nous avons encore des progrès à faire, nous nous y attelons, mais nous avons augmenté considérablement la sincérité des projets présentés aux médecins lors de l'examen du budget. La dette est maîtrisée. Tout ça, nous l'avons fait sans augmenter la dette. Aujourd'hui, la dette représente moins de 6 mois de notre épargne brute. On peut dire qu'on n'est quasiment pas endetté. Cinquièmement, on a un taux d'épargne brute de 10,6% qui va nous permettre et qui nous permet de continuer à financer nos investissements et d'aborder l'avenir sereinement. Pour ce qui en est des politiques menées, on en voit le résultat chiffré, mais on peut s'intéresser au qualitatif autant qu'au quantitatif. Je voudrais pas faire ici donc un inventaire à la Prévert. Je tiens simplement à souligner l'intervention massive de la ville dans le domaine des solidarités. Chose importante auquel nous nous étions engagés en 2008, c'était un axe fort de notre programme. Plus de 160 millions d'euros hors CCAS ont été dépensés en 3 ans pour assurer la solidarité à l'intérieur de la ville de Metz, et ça, je crois que nous pouvons en être fiers. Je rappelle les affaires scolaires, la cantine, le périscolaire, l'action sociale, l'animation et la jeunesse, très forte augmentation, le sport, la santé, l'hygiène, domaine où nous étions absents, l'emploi, la politique de la ville, la cohésion sociale, la prise en compte des handicaps. Nous sommes intervenus massivement sur l'ensemble de ces fonctions. La ville est présente aux côtés des médecins dans tous les aspects de leur vie quotidienne et nous cherchons sans cesse à améliorer les services rendus et à en rendre la vie donc plus facile aux médecins. Au travers de ce compte administratif, véritable baromètre de réalisation des décisions politiques, le projet municipal proposé aux médecins en 2008 s'affirme. Une ville plus ouverte, plus dynamique, plus attractive, mais qui n'oublie pas d'accompagner les médecins dans leur quotidien, de leur apporter des services innovants et de qualité, tout en étant une ville solidaire, qui ne laisse personne au bord du chemin. Tout ça, nous le faisons. Et la motion est en conséquence.
Alors, je vais ouvrir le débat. Monsieur Lebeau, Monsieur Thiel. Alors, Madame Collin-Osterlet, Madame Zimmermann. Monsieur Aldrin, Monsieur Lécadir, voilà. Eh bien, écoutez, on va ouvrir le débat. Monsieur Lebeau, c'est noté, Monsieur Thiel, c'est noté.
Monsieur le maire, chers collègues, en 2 ans, vous avez augmenté la taxe d'habitation, la taxe foncière, le prix de l'eau, le prix des parkings aériens, le prix des parkings souterrains, le prix du stationnement en voirie, la taxe locale sur la publicité extérieure, le prix des terrasses, créer la taxe de séjour, créer la taxe sur l'électricité et supprimer 775 places de stationnement gratuits qui ont ponctionné 550 000 euros supplémentaires sur les médecins. Voilà votre bilan après 2 comptes administratifs. Beau bilan, très beau bilan. De 2008 à 2010, les impôts et les taxes sont passés de 80,9 millions d'euros à 87,4 millions d'euros, soit, monsieur le maire, 6,5 millions d'euros de ponction fiscale supplémentaire sur les familles messines. Jamais, au grand jamais, de l'histoire de Messin, nous n'avions vu une telle déferlante fiscale. À quoi il faut ajouter les augmentations prévues pour 2011, le doublement de la taxe d'électricité, ainsi que la création de la taxe de Metz Métropole et son augmentation. Monsieur le maire, il est vrai que vous aviez tellement bien prévenu vos électeurs au préalable durant la campagne électorale. Votre slogan de campagne, on s'en souvient tous, n'était-il pas voter gros, c'est plus d'impôts. Et c'est pour ça que les Messins ont voté pour vous. Ce péché originel, monsieur le maire, vous colle à la peau, comme le sparadrap du capitaine Haddock. Mais le plus fort, c'est qu'en 2010, les ménages messins ont eu la mauvaise surprise de découvrir sur leur facture UEM la création de la taxe municipale avec un taux de 4%. Monsieur le maire, l'électricité est un bien de consommation indispensable à l'ensemble des messins. Et cette taxe touche tout le monde, y compris les foyers les plus modestes. Cette taxe est injuste et injustifiée, alors que bon nombre de messins souffrent. Et plus encore quand on met en regard les dépenses somptuaires faites par votre municipalité. Une question, monsieur le maire. Monsieur le maire, vous pouvez m'écouter, parce qu'il y a plein de bons conseils. Monsieur le maire, comment est-il possible d'en arriver là? La réponse est simple, monsieur le maire. Vous ne savez pas gérer. Et comme il est bon de vous rappeler, l'ancien maire disait de vous que vous ne sauriez même pas gérer une épicerie, force est de reconnaître qu'il avait raison. En 3 ans, de 2007 à 2010, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de plus de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. Vous dépensez sans compter. Le ratio dépenses réelles sur population est passé de 972 euros à 1064 euros, soit plus de 100 euros de dépenses de fonctionnement par messin. Une hausse de 10% des dépenses de fonctionnement, c'est horrible. Ce ne sont absolument pas, monsieur le maire, les dépenses liées à la petite enfance et à l'introduction du quotient familial pour le prix des cantines qui peuvent justifier une telle hausse des charges. Il y a surtout la flambée des subventions de fonctionnement aux divers organismes associatifs. La ville, écoutez bien, monsieur le maire, distribue plus de 6,2 millions d'euros supplémentaires. Les subventions aux divers organismes associatifs sont passés de 25,3 millions d'euros à 31,5 millions d'euros. Il y a également la non-maîtrise de la masse salariale. Depuis 3 ans, la masse salariale a augmenté de 5,1 millions d'euros. Il y a également les frais de voyage et déplacement qui doublent presque. Si la ville de Metz a besoin de faire face à de nouvelles dépenses de fonctionnement, elle doit absolument privilégier la réallocation de ses dépenses. Le volume des dépenses doit notamment être limité aux recettes disponibles sans hausse d'impôts et de taxes. Il faut faire évoluer le rythme des impôts le rythme des recettes hors hausse d'impôts. Et monsieur le maire, des économies sont possibles, bien évidemment. Et je vous êtes pas sans savoir que j'ai passé au peigne fin les comptes administratifs. Et là, on découvre que c'est Byzance à la ville de Metz. On dépense sans compter. Il n'y a que voir l'évolution du budget de la communication depuis 3 ans. Même si on met les chiffres par rapport à un pourcentage, c'est tellement vertigineux, le pourcentage, qu'il ne veut plus rien dire. Est-ce utile et nécessaire d'accroître encore et toujours le budget de Metz-Plage? Est-ce encore et toujours utile de dépenser sans compter sur la nuit blanche? Et là, un petit crochet sur la nuit blanche. Parce que j'ai entendu votre conseiller délégué aux finances qui nous dit que le budget est sincère et que le compte administratif est extraordinaire. Je rappellerai que le budget qu'on a voté pour la nuit blanche était de 350 000 euros pour 2010. Or, les dépenses réalisées, elles, s'élèvent à plus de 700 000 euros, soit plus du double. Et ce matin, en travaillant grâce à la possibilité que vous m'avez offerte de consulter les comptes, qu'est-ce qu'on constate? C'est que même s'il y a un code d'imputation sur les dépenses nuit blanche, on se rend compte que toutes les dépenses concernant la nuit blanche ne sont pas correctement imputées sur le code. Et donc, en l'espace de 2 comptes comptables, on se retrouve allègrement à retrouver 10 000 euros non imputés. Alors, quand on parle de sincérité, de transparence, Alors je ne reviendrai pas sur le fait que vous mettez toujours des bâtons sur les roues parce que je ne peux pas recevoir de copie et que je dois encore payer 40 centimes d'euros une copie. Alors je vous demande juste si vous, quand vous demandez une copie à vos services, ils vous font payer 40 centimes d'euros la copie que vous demandez. Il ne peut pas y avoir dans cette instance deux poids, deux mesures si pour vous il y a une gratuité sur les copies que vous demandez. Je dois avoir la même chose. Voilà pour la petite discrétion sur la nuit blanche. Mais il y a aussi l'embauche, monsieur le maire, de 80 agents non titulaires supplémentaires. Est-ce raisonnable d'embaucher 80 agents non titulaires supplémentaires alors que, dans le même espace-temps, les effectifs de la police municipale passent de 98 à 92. On diminue là où c'est nécessaire, on recrute des amis. Votre priorité n'est malheureusement pas la cohésion sociale. Et notre amie Nathalie Collin-Osterlet fera un point là-dessus. Les dépenses voies et réseaux augmentent cette année encore de près de 50%, comme si notre ville n'avait pas assez de travaux depuis 3 ans. Il s'agit là d'une logique de la dépense publique sans réel discernement. Monsieur le maire, il est impératif que la municipalité gère plus rigoureusement les deniers publics en faisant des arbitrages budgétaires plus forts. Vous qui avez présenté le concept de l'effet de ciseau au début de votre mandat, en prétextant que votre prédécesseur avait la possibilité de le créer, cet effet de ciseau, je mets juste en relief 2 chiffres. 7 millions de recettes supplémentaires, 12 millions de charges supplémentaires. Oui, monsieur, vous avez imaginé le concept d'effet de ciseau, vous le réalisez depuis 3 ans, c'est une honte. Vous, par ailleurs, monsieur le maire, le niveau de la fiscalité est un des éléments d'attractivité d'une ville et de la ville de Metz. Combien de familles, monsieur le maire, ont renoncé à habiter à Metz ou même fui? Il n'y a qu'à voir l'évolution de la population messine. D'année en année, de compte administratif en compte administratif, les Messins sont de moins en moins nombreux. Une des raisons, c'est le poids énorme des impôts locaux et des taxes locales. Monsieur le maire, je souhaite vous dire également un mot sur la section d'investissement. Alors, j'ai bien écouté votre conseiller délégué aux finances, mais je n'arrive absolument pas au même constat. Le taux de réalisation de votre budget investissement n'est que de 52%. Avec à la clé, et c'est la première fois, 15,6 millions d'euros de crédits annulés. Vous fustigiez, comme moi d'ailleurs, les budgets d'investissement de votre prédécesseur. Vous ne faites guère mieux. Vos budgets d'investissement manquent de sincérité et de transparence. Voilà le constat que nous donne ce compte administratif. C'est déplorable. Toutefois, en matière d'investissement, les Messins ont le sentiment de voir de l'argent comme s'il en pleuvait, investi dans des chantiers dont la justification est souvent incertaine. Un budget d'investissement réalisé qui s'élève à 47 millions d'euros, largement plus que les 40 millions d'euros annoncés. Ces dépenses sont financées à plus de 75% par la ville, alors que les règles de bonne gestion devraient les mener à 66%. Une ville sans dessus-dessous, une ville qui souffre, une ville que vous éventrez. Certes, tous ces travaux pour donner l'impression de l'action et que vous occupez de la ville, mais il n'en est rien. C'est du bricolage, de la pagaille, c'est de la grande improvisation. Un dernier mot, monsieur le maire, permettez-moi de remarquer une opération que vous avez conduite sous mandat. Il s'agit du centre Pompidou. On connaissait un coût, celui de 72,5 millions d'euros. Quand on lit les dépenses réalisées, elles s'élèvent, elles, à 80 687 269 euros. Voilà ce que nous donne ce compte administratif. Pour conclure, à la lecture de ce compte administratif, on a le sentiment d'une gestion de gribouille. Votre choix politique est irresponsable en ces temps de crise et ne peut susciter au mieux la consternation, au pire le rejet des médecins trahis par vos promesses électorales. Je vous remercie, monsieur le maire.
Monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, la réalité du compte administratif par rapport à un budget, c'est que nous ne sommes pas dans les intentions, mais nous sommes dans les réalisations. Et si vous me le permettez, je vous dirai que je ferai un tout petit détour d'introduction sur la crise internationale. Parce que nous sommes effectivement, tous les pays de l'OCDE le disent et le font, nous sommes effectivement dans une crise. Vous vous plaignez souvent que l'État restreigne son train de vie au point de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. On vous a entendu avec moult motions sur ce sujet, notamment pour l'éducation nationale. Quand vos amis socialistes au pouvoir en Espagne, eux, ne remplacent qu'un fonctionnaire sur 10, conscient de la responsabilité qui leur incombe. Vous critiquez sans tout le temps et sans cesse la politique de l'État, au point même de présenter dans votre document ici budgétaire un accompagnement disant, en gros, que l'État donne de moins en moins à la ville de Metz. On va voir ce qu'il en est. Enfin, je voudrais dire que pour ce qui concerne Metz, nous sommes dans la situation où nous perdons des habitants, puisque je ne remonterai pas à 2007 parce que je ne voulais pas absolument me faire l'apôtre, on le comprendra, mais Emmanuel Lebeau l'a fait, je l'en remercie, de votre prédécesseur. Mais en revanche, j'ai fait une comparaison pour savoir quelle était votre tendance actuelle entre 2008, votre compte de gestion en 2008, et votre compte de gestion que vous nous présentez en 2010. Et c'est là que l'on remarque que nous avons perdu 1000 habitants. Et nous avons donc perdu aussi des contribuables. Alors dans ce contexte, quelle est la réalité des chiffres avérés par vos documents? Premièrement, comme ça a déjà été dit, c'est une extraordinaire montée des taxes et, je dirais, une amputation générale du pouvoir d'achat des médecins, non seulement par la fiscalité, mais par tout ce qui est subséquent, le parking, etc. Je ne reviens pas, ça a été dit. En ce qui concerne simplement le produit des impôts et taxes, nous en avions un produit de 81 millions d'euros en 2008, selon votre compte. Nous sommes en 2010 à 87,4 millions d'euros. C'est-à-dire que vous avez prélevé rien qu'en 2 ans, et après même avoir déjà prélevé davantage que votre prédécesseur, vous avez 8% d'augmentation d'impôts, ou pour que les choses soient claires, 6,4 millions. Je ne reviens pas sur les chiffres d'Emmanuel Lebeau parce que lui compare encore une année antérieure. Donc 6,4 millions d'euros d'impôts de plus après votre année de gestion où vous les aviez déjà augmentés. Comme la population diminue, ça veut donc dire que vous faites payer de plus en plus à de moins en moins de médecins. La question que l'on peut se poser d'ailleurs est, est-ce qu'ils ne sont pas de moins en moins puisqu'ils payent de plus en plus? Et c'est vrai qu'autour de nous, lorsque nous sommes dans les quartiers, nous entendons nos concitoyens dire, écoutez, Metz devient vraiment une ville trop chère, je vais partir vers d'autres villes que je ne citerai pas parce que ça leur ferait trop plaisir et ça leur ferait de la publicité, qui sont d'ailleurs des amis de la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Dans ce contexte, qu'en est-il donc de forte augmentation de la fiscalité? Qu'en est-il des dotations de l'État et puis du département, etc.? Eh bien, c'est qu'elles restent stables, monsieur le maire, contrairement à ce que vous prétendez. Alors évidemment, la DGF est affectée par des mécanismes multiples par la baisse de la population, mais je voudrais vous dire que, toutes tendances confondues, les chiffres sont ceux-ci. Nous avions 40,9 millions de dotations générales de l'État ou d'autres collectivités en 2008. Nous en avons 40,7 en 2010. C'est-à-dire une très légère baisse, mais qui n'est pas du tout au niveau de celle que vous situez. Quant à la DGF, en rapport même avec la population, elle se monte aujourd'hui à 231 euros par habitant, alors qu'elle était en 2008 de 230. Mais il doit y avoir une spécificité, je dirais, de la baisse de la population, puisque dans le même temps, et ça ressort d'ailleurs des chiffres que vous avez le plaisir de nous donner, cette dotation sur le plan national passe de 270 à 277 euros par habitant. Bon, nous, nous perdons, passons de 231 à 230, alors que nationalement, on passe de 270 à 277. Donc, où est le désengagement de l'État qui justifie tout ? Craignant sans doute les critiques sur les frais de fonctionnement, monsieur le maire, vous insistez beaucoup dans votre document sur l'importance de l'équipement, et vous avez raison. C'est vrai que l'équipement a augmenté. J'ai constaté que de 2008 à 2010, on passe de 34,8 millions à 43,7, ce qui n'est pas rien. Mais lorsqu'on va dans le détail des comptes, on s'aperçoit que cela concerne surtout des réseaux techniques qui, à mon sens, sont à mettre en parallèle avec les travaux d'aménagement nécessités par le Métis. En ce qui concerne le fonctionnement, c'est là où le bât blesse, monsieur le maire. Parce que tout votre discours sur l'investissement cache en réalité des augmentations de fonctionnement importantes. Ainsi encore, de 2008, votre gestion, à 2010, toujours votre gestion, on passe de 124,6 millions d'euros en 2008 à 134,1 millions d'euros en 2010. Soit, monsieur le maire, des dépenses de fonctionnement en hausse de 9,5 millions d'euros, à mettre en rapport avec les 12 millions cités par monsieur Lebeau, si on prend encore une année antérieure. En pourcentage, ça fait 8% de plus. Alors, en ce qui concerne ces frais, on constate que les dépenses de personnel entre 2008 et 2010 passent de 66,4 millions à 70,5, soit 4,1 millions de plus. Et les dépenses de gestion courante, alors là c'est pire, dans lesquelles il y a effectivement les subventions aux associations, passent de 28,7 millions en 2008 à 33,4 millions en 2010. Soit 4,7 millions de plus. Si je cumule, là, ça fait 16% de plus. 16% de plus. Donc, on voit bien, monsieur le maire, une chose extraordinaire. C'est que vos dépenses de fonctionnement augmentent considérablement et votre hausse fiscale ne suffit même pas à les financer. Alors, on appellera ça comme on voudra. Monsieur Lebeau parle de l'effet de ciseau gros. Moi, je vous laisse réfléchir à ces chiffres qui sont les chiffres tels qu'ils sont dans vos documents et qui, moi, me posent un très grave problème sur la gestion de la ville de Metz, parce que lorsqu'on prélève 6,4 millions d'euros de produits fiscaux et divers sur les Messins, restreignant ainsi pour le commerce de la ville et l'agrément de tous 6,4 millions, ce qui n'est pas le gain sur le pouvoir d'achat, eh bien, vous en dépensez rien qu'en fonctionnement, je ne critique même pas vos investissements, rien qu'en fonctionnement, vous en dépensez 8,8 millions d'euros de plus. C'est-à-dire 6,4 de plus, votre première année de gestion à aujourd'hui, 8,8 millions d'euros de plus de frais de fonctionnement entre votre première année de gestion et aujourd'hui. Il y a là une pente singulièrement dangereuse, monsieur le maire. Parce que si au bout de 3 ans nous en sommes là, si vous restez sur ces mêmes pourcentages, comment finira-t-on le mandat ? Enfin, en ce qui concerne la dette, parce que c'est toujours important de se pencher sur l'état de la dette, nous reconnaissons que nous sommes très bas, monsieur le maire, par rapport à la moyenne de la strate. Vous voyez, je ne suis pas là pour noircir un tableau, je suis là pour vous donner la réalité des chiffres. Nous le devons bien entendu à une certaine prudence de votre part, je le souligne, mais nous le devons surtout au fait qu'on avait commencé très très bas avec les chiffres de votre prédécesseur, si vous me le permettez, puisque avec 97 euros en 2008 et 115 euros par habitant en 2010, on se situe très inférieur à la moyenne de la strate, comme l'on dit, mais nous notons cependant qu'il y a là une augmentation de 18,5% de la dette par habitant en ce qui concerne la ville de Metz. Alors voyez-vous, monsieur le maire, dans un contexte général où tout le monde s'accorde à dire que la crise doit passer plutôt par une relance du pouvoir d'achat des Français et des pays de l'OCDE en règle générale, mais avec une contrainte sur les finances publiques, notamment en matière de fonctionnement, parce que l'investissement, on est bien tous d'accord, c'est l'avenir, eh bien vous, monsieur le maire, vous faites exactement l'inverse. C'est-à-dire vous prélevez sur le pouvoir d'achat pour assurer des dépenses de fonctionnement en hausse. C'est-à-dire que la ville de Metz s'inscrit systématiquement à l'inverse de toutes les recommandations internationales pour les pays et pour l'OCDE, et à l'inverse de la politique qui est pratiquée par le gouvernement français.
Merci. Madame Colin-Osterley.
Oui, monsieur le maire. Le moment du vote du compte administratif est un moment toujours très important puisqu'il donne finalement une idée de la manière dont ont été utilisés les fonds publics sur l'année précédente et surtout sur l'efficience des décisions qui sont prises par votre majorité, notamment en matière de réalisation des recettes et des dépenses. Alors, cette année encore, le compte administratif présente un excédent, certes de 2%, quelques millions. Je rappelle quand même que 3 millions d'euros, ça représente 8 points de fiscalité. Et je ne peux m'empêcher de faire, comme l'année dernière, le corollaire avec le CCAS, subventionné à 60% par la ville de Metz, lequel présentait déjà un excédent de 900 000 euros. Et cette année se surpasse avec un excédent en fonctionnement sur l'année 2010 de 1 200 000 euros. Et on se retrouve enfin avec un trésor de guerre au CCAS de 4 millions d'euros, au-delà de ce qui est nécessaire pour financer le projet de la mandature, la crèche de l'amphithéâtre. Alors, on pourrait ne pas trouver cela si choquant, car après tout, être inventif, être force de proposition, mettre ses actes en accord avec ses déclarations, ça n'est pas si facile. Et je ne vous ferai pas l'affront, monsieur le maire, de vous rappeler les propos cinglants qui étaient les vôtres à l'encontre de la politique sociale menée par l'ancienne municipalité. Pas assez de moyens de déployer, pas assez de projets, et j'en passe. Bref, on pourrait se dire que thésauriser, finalement, ça n'est pas un crime. Sauf que, lorsqu'on est en pleine crise économique et qu'on a l'audace, après s'être engagé publiquement à ne pas le faire, d'augmenter les impôts 3 années de suite, avec, je vous le rappelle, une taxe sur l'électricité qu'on nous a dans un premier temps cachée et qui a été portée à son taux maximum, taxe que vous dites vertueuse, alors qu'elle touche les foyers les plus modestes, ceux qui se chauffent justement à l'électricité et dont les logements sont bien souvent mal isolés. Lorsqu'on a cette audace-là, on ne thésaurise pas sur le dos du contribuable. Comment expliquer aux Messins qu'on est dans l'obligation d'être taxé davantage, alors que dans le même temps, sur les actions répondant à leur quotidien, petite enfance, personnes âgées, personnes exclues, on fait des économies, on thésaurise par manque de projet. Et ce ne sont pas les 50 000 euros que vous mettez dans le MESPACE loisirs, qui est au demeurant un très beau projet, mais ça n'y change pas grand-chose. C'est bien peu, et si j'osais, je me mettrais à comparer. Cela montre à l'évidence que la pression fiscale que vous avez imposée aux Messins n'était pas justifiée, car elle ne peut être légitime que lorsqu'elle répond à des besoins urgents et incontournables de la population. À des projets, ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsqu'on prélève davantage d'impôts, ce n'est certainement pas pour thésauriser, ni pour faire du clientélisme, mais bien pour répondre aux besoins essentiels. Et si vous ne parvenez pas à dépenser les sommes consacrées à la petite enfance, aux personnes âgées ou aux exclus, eh bien écoutez, rendez ces sommes aux Messins, ou donnez-les à votre adjointe aux affaires scolaires, qui, elle, je suis sûre, saura très bien quoi en faire.
Merci.
Alors, j'ai pas fini, monsieur le maire. Vous parlez de pourcentage en matière de postes aujourd'hui en augmentation budgétaire, notamment concernant les charges de personnel. 80 agents non titulaires supplémentaires depuis 2007, Emmanuel Lebeau l'a rappelé. Alors que bien des compétences, tout de même, avaient été transférées, il me semble, à Metz Métropole. Mais la donne n'est pas la même pour tous les postes budgétaires. Effectivement, 6 policiers municipaux de moins par rapport à 2007, dont acte. Parlons des emplois de cabinet, multipliés par 2. Service de communication, qui a doublé, voire plus. Et de plus en plus de chargés de mission avec de moins en moins d'agents de catégorie C. Oserais-je vous rappeler, monsieur le maire, qu'en 1984, vous étiez opposé à l'augmentation de la fiscalité décidé par votre prédécesseur, je vous rappelle qu'il en a fait 2 en 37 ans de mandat, parce que vous trouviez qu'il y avait trop d'embauches par la ville, de chargés de mission et de collaborateurs de cabinet. Et vous disiez que les impôts ne devaient pas servir à cela. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas connu à l'époque, pardonnez-moi, mais je suis certaine que j'aurais apprécié davantage le Dominique Gros d'antan, certainement plus sincère. Des années ont passé, ça c'est indéniable, et les hommes changent vraisemblablement. 10 millions de recettes fiscales supplémentaires aujourd'hui, alors qu'on ose thésauriser sur des sujets aussi essentiels que le social, cela montre bien à quel point notre vision de la société est différente. Ce sont les plus modestes qui trinquent, encore et toujours. Et il serait peut-être temps que les beaux discours de solidarité trouvent enfin une véritable résonance, et pas seulement sur quelques actions marginales que l'on médiatise à outrance et qui sont insignifiantes en termes de moyens déployés. Je vous remercie.
Madame Zimmermann.
Merci, Monsieur le maire. Volontairement, j'ai souhaité que les uns et les autres s'expliquent, tout simplement pour donner ma conclusion et vous dire que, Monsieur le maire, je crois que vous aurez compris, à travers les interventions successives d'Emmanuel Lebeau et de Nathalie Collin-Osterlé, que nous ne pouvons pas partager votre vision. Pourquoi ? Tout simplement parce que, Monsieur le maire, je crois que vous avez trop souvent tendance à oublier, et je le répète, et je crois que je le répéterai jusqu'à la fin du mandat. On ne peut pas m'accuser d'être une admiratrice de votre prédécesseur. Simplement, je crois sincèrement, Monsieur le maire, que votre prédécesseur vous a laissé quand même, je dirais, presque un tas d'or. Et aujourd'hui, je suis au regret de vous dire, Monsieur le maire, que de cette fameuse cagnotte, il ne reste plus que 36 millions d'euros. C'est le premier point. Deuxième point, je suis également au regret de vous dire, Monsieur le maire, que vos augmentations d'impôts, dans une situation qui aurait été une situation d'endettement de la ville, je dirais que même de façon, plutôt de façon modérée, elles auraient été comprises. Aujourd'hui, elles sont mais totalement incomprises de la part des médecins. Et Monsieur le maire, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je crois qu'à un certain moment, les médecins vous ont quand même fait comprendre que trop, c'était trop. La preuve, c'est que vous êtes senti obligé de faire une conférence de presse et de dire « je n'augmente plus les impôts ». Ça veut dire quoi, Monsieur le maire ? Ça veut dire que vous avez utilisé une partie de la cagnotte, vous avez ponctionné les médecins, et Emmanuel Lebeau le disait, 100 euros par personne. C'est énorme, Monsieur le maire. Lorsque vous regardez aujourd'hui la situation de nombreux médecins, c'est une situation de précarité pour un certain nombre. 100 euros, ça représente quand même, je dirais quand même, quelque chose d'extraordinairement dur à gérer dans un budget qui est le budget de la majorité des Français, Monsieur le maire. Et je pense que lorsque les uns et les autres mettaient en avant l'aspect de social dans votre gestion, il y a également aujourd'hui peut-être à réfléchir sur cette augmentation d'impôts que vous avez fait voter depuis que vous êtes en place. Monsieur le maire, également un autre point. Je souhaiterais que vous soyez, et notamment votre adjoint chargé des finances, quand même, je dirais, un tout petit peu plus sincère en ce qui concerne les aides de l'État. Parce que c'est trop facile, Monsieur le maire, trop facile chaque fois de dire l'État se désengage. La DGF, Patrick Thiel l'a dit, mais enfin écoutez, on ne peut quand même pas demander à l'État de continuer à donner une DGF alors que la population diminue. Enfin écoutez, mais moi j'aimerais bien qu'à un moment donné, vous soyez objectif dans vos présentations. Lorsque on passe les rapports les uns après les autres, mais vous observez, Monsieur le maire, je crois que l'État tient son rôle. Donc je souhaiterais que vous soyez là aussi un peu plus sincère. Et lorsque vous allez demander en permanence de l'aide de l'État, mais arrêtez de critiquer l'État à conseil municipal après conseil municipal. Tout à fait, l'État accompagne proportionnellement en fait à ce que on lui propose. Donc Monsieur le maire, s'il vous plaît, votre compte administratif, comme l'a très justement dit Monsieur Toulouse, c'est le bilan de 3 ans. Simplement, ce que je constate, c'est que dans vos emplois de cabinet, ils sont multipliés par 2. Ok ? Les opérations sont extrêmement importantes. Il y a peut-être une gestion et vous arrivez. Je ne sais pas si arrivant aux affaires, nous aurions fait la même chose. Simplement, il faut le constater. Au niveau de la police municipale, lorsque sur le blog de la mairie, on dit Madame Zimmermann est d'accord avec la politique de sécurité. Madame Zimmermann a fait un constat. Mais Madame Zimmermann, lorsqu'elle regarde le compte administratif, elle voit qu'il y a des policiers en moins. Et lorsque, notamment, on leur demande d'intervenir, ben, je vais vous dire, moi, je les admire parce que aujourd'hui, au lendemain des élections cantonales, vous leur demandez d'être encore plus présents. Et c'est très bien. J'approuve. Sauf que, à un moment donné, ils peuvent pas se démultiplier dans des quartiers, pas forcément les quartiers les plus sensibles. Et vous le savez aussi. Donc, Monsieur le Maire, je crois que sincèrement aujourd'hui, votre bilan des 3 années, j'aurais aimé un peu plus d'objectivité. Et vous comprendrez que. Nous ne pouvons pas approuver ce compte administratif, nous ne pouvons pas aller dans votre sens et nous ne pouvons pas partager votre politique. Merci.
Merci. Alors, j'ai noté Monsieur Aldrin.
Merci Monsieur le Maire et chers collègues. Alors, sur l'exécution budgétaire et les résultats, beaucoup de choses ont été dites et je ne reviendrai pas, mais le compte administratif, c'est aussi l'occasion de voir l'utilisation de cet argent, la vitrine de votre politique, finalement. Et c'est d'autant plus intéressant que nous sommes à mi-mandat. Et finalement, analyser ces comptes n'a de sens que si on l'inscrit dans le contexte que nous connaissons, celui d'une crise économique et sociale sans précédent. Et finalement, on se rend compte des différences entre ceux qui ont bien géré cette crise, hein, à un autre niveau, et ceux qui, comme vous, l'ont géré de manière... je pense, assez catastrophique. Et je vais m'en expliquer. Car là, nous avons le clivage politique majeur, me semble-t-il, entre votre municipalité et nous-mêmes. Nous n'avons cessé d'appeler à une politique de maîtrise de dépenses et une politique à la fois économique ambitieuse pour relancer l'offre, pour relancer le travail, pour relancer l'économie. Et vous avez choisi de faire strictement l'inverse. Sur les dépenses de fonctionnement, je ne vais pas y revenir. Patrick Thiel a donné le chiffre de plus 8% d'augmentation entre le compte administratif 2008 et 2010. Donc ça, c'est factuel, c'est pas contestable, c'est la réalité. Et puisqu'on aime tellement parler de la strat, moi j'ai fait le calcul également pour la strat. La strat, hein, pour les dépenses réelles de fonctionnement, entre 2008 et 2010, c'est plus 2,5. Grosso modo, l'inflation, un peu plus. Donc voilà une strat, hein, qui a géré de manière convenablement, qui a compris que dans un contexte difficile, il fallait maîtriser un peu et appuyer sur le frein, quand vous avez considérablement appuyé sur l'accélérateur. On a fait 3 fois plus de dépenses de fonctionnement que la strate à laquelle on aime tellement se comparer. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du mandat, on sera au-dessus de la strate. On l'a quasiment rattrapé. Et, bon, alors il y a plusieurs exemples, mais celui qui frappe évidemment, il y a la communication, on a été... catalogué, je crois, comme étant la deuxième ville de France de plus de 100 000 habitants pour le service communication. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qui marque aussi sur ce compte administratif, c'est finalement le pilotage à vue, sans cap et sans vision. Au fond, dans ce contexte, parce que j'y reviens toujours, ce qui compte, c'est de connaître les priorités fortes de cette municipalité. Et nous semble-t-il, dans ce contexte, j'insiste là-dessus, les priorités, ça doit être le social. Alors on nous dit depuis 3 ans, oui, mais c'est le périscolaire, c'est les cantines. Alors, bon, le disque est sympathique, nous sommes d'accord, ce sont des efforts concrets que nous avons soulignés. Mais enfin, le vrai social à Metz, c'est le CCAS. Quand on donne 20 millions d'euros au CCAS, c'est quand même là qu'on est plus à même de juger... La ville, 11 millions, excusez-moi, on est quand même, c'est là qu'on est à même de juger la politique sociale de la ville. Et sur cet nouvel excédent, effectivement, je rejoins Nathalie Collin-Starlis, ça peut se débattre. Si on a beaucoup de projets, par exemple, si on doit financer 5 crèches, peut-être normal de mettre de côté pour avoir une capacité d'autofinancement. Mais c'est quand même assez extraordinaire de demander des augmentations d'impôts aux Messins, de créer une taxe qui n'existait pas avant, précisément parce qu'elle était antisociale, qui est la taxe sur l'électricité. Et finalement, on a ce contexte, ce constat assez singulier à Metz, c'est qu'on savait quand même un certain nombre sur les gestions socialistes. On savait que le socialisme, ça gérait pas très bien. Mais en plus, à Metz, on a des socialistes qui ne font pas beaucoup de social. Ça fait beaucoup quand même pour notre ville. Sur l'économie, alors là, on va pas revenir sur ce débat, mais bon, Bah, le palais du Congrès était plus urgent que le Métis, à notre avis. On ne va pas revenir, mais ça aussi, c'est quand même extraordinaire à lire, le rapport d'activité de Metz-Métropole et le Développement. Mais c'est vrai que monsieur l'adjoint fait beaucoup d'articles de presse, mais
monsieur Lebeau, laissez parler monsieur Aldrin, s'il
concrètement, notre position, c'est de mettre le paquet sur l'économie. Ça ne vous intéresse absolument pas, et c'est là aussi quelque chose que nous regrettons profondément. Et aussi quelque chose qui illustre ce pilotage à vue. L'UEM, voilà un sujet central dans notre politique budgétaire. On a appris, même si on le savait, mais on en a la confirmation, je crois, suite à une question de Patrick Thiel, sur la cagnotte, le craquage de la cagnotte. Vous étiez un peu embarrassé, monsieur le maire, dans votre réponse, et pour la simple et bonne raison, c'est que vous utilisez cet argent pour de la trésorerie. Ça veut bien donc dire que on dépense tellement en fonctionnement qu'on est obligé de prendre de l'argent ici ou là. Moi, je ne suis pas contre qu'on utilise l'argent de la cagnotte. Ce n'est pas un dogme absolu. Il faut placer 55 millions pour que ça provoque des recettes supplémentaires. À une seule condition, c'est d'avoir des projets structurants, principalement porteurs d'activités. Et ça, nous ne le constatons pas. Et sur l'UEM, je crois que nous pouvons être inquiets parce que c'est à terme des recettes qui seront plus faibles pour notre ville. Et ça impactera tout notre système budgétaire, toute notre politique budgétaire, et je crains malheureusement que les médecins, in fine, soient encore mis à contribution. Au final, et pour résumer, vous n'avez pas su protéger les médecins de la crise, ce compte administratif le montre, et vous n'êtes pas capable non plus de proposer un cap pour en sortir et pour faire en sorte que Metz redevienne cette ville attractive, cette ville dont nous sommes fiers. Je vous remercie.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, je voudrais tout d'abord qu'on m'explique un jour comment on peut défendre le social à Metz et la suppression de l'ISF à Paris. J'ai du mal à comprendre et c'est un peu ce que parfois j'entends ici. Et je crois que tout ceci ne correspond pas à la réalité. J'ai entendu tellement de contre-vérités, tellement de propos parfois outranciers, complètement en décalage avec la réalité, qu'il faut le dire, ça frise le ridicule. Il ne suffit pas d'asséner des chiffres complètement faux pour en faire des vérités. Ceci ne correspond pas du tout à la réalité. La vérité est qu'il y a ici des élus d'une opposition qui ont encore du mal à accepter une réalité pourtant évidente. C'est que la gauche gère Metz et elle la gère très bien et elle la gère mieux que vous l'avez gérée. Tous les chiffres l'indiquent, j'y reviendrai. Tous les chiffres qu'on vous a proposés ici sont des chiffres incontestables. Ils montrent que la ville est très bien gérée. Jean-Michel Toulouse l'a très bien dit, il a rappelé l'ensemble de nos politiques ambitieuses en direction des Messins et à leur côté. Vous parlez et vous n'arrêtez pas de revenir là-dessus sur les augmentations d'impôts. Je tiens à rétablir la vérité ici. Les impôts ont été, c'est l'effort qui a été demandé aux Messins, augmenté à deux reprises de 5% et de 2% et rien d'autre. Et je crois que dire le contraire est un mensonge. Et si cette augmentation a été nécessaire, elle l'a été pour deux raisons. D'abord, le fameux effet ciseau qui n'est pas un mythe, qui n'est pas simplement une phrase comme ça, mais qui correspond à une réalité qu'exigeait la situation financière de la ville, et nous l'avons corrigé. Le deuxième élément, je suis désolé de le dire, mais c'est tellement vrai là aussi, c'est effectivement la politique du gouvernement de droite, UMP, Sarkozy, Fillon, qui s'attaque frontalement aux collectivités locales. Et des exemples, on peut en citer des dizaines ici et ailleurs. C'est aussi à cause de cette politique de l'État en direction des collectivités locales que ici à Metz, nous demandons un effort aux Messins pour une politique et pour des politiques ambitieuses. Les exemples, je peux en citer des dizaines. Je souhaiterais finir mon propos sur un point, mais ça a été tellement peu commenté que, à mon avis, ça le mérite tant, c'est la question de l'investissement. La droite se présente comme la championne de l'investissement, et je crois que Les chiffres que nous présentons ici sont incontestables. Je crois que les champions de l'investissement, c'est plutôt de notre côté, puisque depuis 2008, c'est plus de 30% d'investissement que nous menons, et les chantiers qu'on a en ville le démontrent parfaitement. C'est aussi un taux de réalisation remarquable, je le dis bien, que cette ville n'a jamais connu. Donc une politique d'investissement offensive, un taux de réalisation remarquable et en amélioration constante. Donc pour ma part, je crois que ce compte administratif montre parfaitement l'excellente gestion de cette ville et une politique ambitieuse au service des Messins.
Eh bien écoutez, je avant de sortir pour laisser organiser le vote par... par Richard Liogé, je voudrais vous dire que j'ai été très attentif aux remarques qui ont été faites. Effectivement, il y a des choses passionnantes dans un compte de résultats, et je voudrais vous donner quelques indications. D'abord, en répondant courtoisement à Monsieur Thiel, qui s'y connaît en lecture de budget. Monsieur Thiel, vous avez centré votre intervention sur les 1000 Messins de moins comptabilisés par l'État. Effectivement. Figurez-vous que le premier haut fonctionnaire qui soit venu me trouver quand je suis arrivé à cette place de maire était le directeur régional de l'INSEE. Il est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit, monsieur le maire, ça faisait déjà drôle de me faire appeler monsieur le maire à l'époque encore. Maintenant, ça va, j'ai pris l'habitude. Il m'a dit, monsieur le maire, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je suis obligé de vous compter 1000 habitants de moins. Il m'a dit ça, je venais d'arriver. Il ne m'a pas dit, parce qu'il y avait effectivement 1000 habitants de moins physiques qui était parti, mais il m'a expliqué la façon de compter les doubles comptes avec les casernes. Il n'y avait pas encore eu la crise militaire. Et donc, cette affaire de 1000 habitants de moins qui aurait fui en masse, parce que les socialo-communistes étaient arrivés aux affaires et les avaient assénés d'impôts, est une rigolade. Et monsieur Thiel, vous avez bien fait de poser cette question-là, parce qu'effectivement, le haut fonctionnaire qui est venu me trouver était très embêté. Il aurait préféré annoncer ça à mon prédécesseur. Il aurait pu le faire, d'ailleurs. Mais bon, à la fin, les choses étaient un peu troublées. Il a attendu que je sois arrivé. Et il m'a annoncé la mauvaise nouvelle de la façon dont l'INSEE comptabilisait, effectivement, des gens qui résident et qui ne résident pas à Metz. Et il y a effectivement beaucoup de doubles comptes quand on est une ville de garnison. Et l'État cherche toujours des bonnes méthodes pour ne pas comptabiliser deux fois la même personne. Alors ça, la voilà à l'origine. Parce que figurez-vous que les statistiques que nous faisons de près ne nous indiquent pas une perte de population dans la mesure où nous sommes capables de réaliser les 500 logements par an. Merci Richard Liogé, merci les bailleurs sociaux, Madame Kosik, merci ceux qui s'y collent, pour maintenir la population 500 logements. Et nous les faisons. Et le problème, il est là. C'est que pour lutter contre la décohabitation, pour compenser la décohabitation, les séparations, les gens qui vivent, etc., nous avons 500 logements à faire et nous les faisons. Et donc, en ce moment, mis à part le début du commencement des restructurations militaires qui arrivent, vraiment, nous n'avons pas perdu de population. Donc c'est l'État qui a, par un artifice de calcul, que je respecte d'ailleurs, de l'INSEE, nous a mis cette affaire des 1000 habitants dans le nez. Maintenant, Monsieur Thiel, je reste sur vos déclarations parce que finalement, elles étaient sérieuses et construites. Vous m'avez indiqué, finalement, en deux ans, qu'est-ce que c'est? L'État vous donnait 40,9 millions, il vous donne encore 40,7. Mais l'inflation, vous n'avez pas échappé, monsieur Thiel, vous avez oublié d'en parler. Quand vous calculez les pourcentages de dépenses, vous y allez. Mais quand il s'agit de comparaison à deux ans d'écart, savez-vous, je parlerai du gouvernement tout à l'heure, Madame Zimmermann, rassurez-vous. Savez-vous que l'inflation en ce moment est à 2,5%? Et donc, quand vous m'expliquez que l'État en 2 ans, il a baissé, vous avez oublié de dire en euros courants, sur Metz, en euros courants. Mais attendez, je parle bien de Metz, nous sommes à Metz, en conseil municipal de Metz. Monsieur Thiel, je vous suis 100%. Et donc, quand vous m'indiquez que l'État a baissé légèrement en euros courants, ça veut dire qu'avec l'inflation, il a baissé de l'ordre de 5%. Voilà la réalité. Et c'est une baisse très importante. Eh bien si, monsieur Thiel, malheureusement, l'inflation, vous devriez la connaître. C'est ça en ce moment, malheureusement. Alors, vous ajoutez en plus de ça, parce que vous donnez un chiffre très important, que j'ai noté au vol, vous avez indiqué qu'en ce moment, on avait 230 euros par habitant, et que la moyenne nationale, c'était 277. Effectivement, en plus de ça, l'État tape davantage sur les grandes villes que sur la moyenne nationale. On s'en plaint à l'Assemblée des maires des grandes villes de France. Nous avons pratiquement tous les investissements structurants à mettre en place, et pour des raisons que j'ignore, enfin pas tout à fait, mais que j'ignore, on tape sur les grandes villes. Regardez un petit peu comment se présentent les grandes villes en ce moment au plan politique, et vous comprendrez. Alors, je dirais que oui, monsieur Thiel, je vous suis complètement devant dans votre démonstration, et ce que vous avez oublié également pour comptabiliser les impôts, vous avez oublié encore un point de détail. Mais en fait, vous ne pouvez pas l'avoir oublié parce que vous vous y connaissez vraiment, monsieur Thiel. Vous avez oublié de parler de la substance fiscale qui a augmenté. Il ne faut pas l'oublier. La richesse de Metz augmente et de ce fait, une partie de l'impôt qui est prélevé sur les Messins provient tout simplement du fait que collectivement, nous avons une plus grande richesse. Vous l'avez oublié, mais je sais que vous le saviez, et je le dis en votre nom, monsieur Thiel. Maintenant, je continue. Les bases augmentent. Et vous nous dites, plus 8% en 2 ans. Et j'ai eu une liste sur le personnel. Ah, le personnel coûte cher. J'ai entendu aussi parfois des attaques sur les fonctionnaires. Ah, les fonctionnaires. Je vois les associations qui sont des ruines pour la ville. Je vais y venir. Ce sont des bons sujets. Des fonctionnaires. Du personnel payé 2 heures. J'ai déjà entendu dans une vie antérieure. Mais non, madame. C'était dans une vie antérieure. J'ai jamais entendu, madame. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, madame. Je vais vous expliquer. Il y avait, monsieur Thiel, des gens qui étaient payés 2 heures par jour. Ah, formidable. C'était pas la misère à l'époque, hein. Et pas payés pendant les vacances, bien entendu. Bien entendu. Et on les a passés à 4 heures et mensualisés. Ah, effectivement, les charges de personnel, ça grimpe. Je dirais que oui, nous avons lutté contre la précarité. Ça coûte de l'argent. Je me permets de parler, s'il vous plaît. Merci. Nous avons lutté contre la précarité de certains employés municipaux qui étaient traités de façon indigne, je le dis. Nous avons aussi, dans certains cas, favoriser certaines associations qui rendent des grands services à la ville. Je suis vraiment très étonné d'entendre stigmatiser ici les associations. Nous avons la chance à Metz d'avoir un tissu extraordinaire d'associations qui mobilise énormément de bénévolat, de militants de la ville qui, dans un secteur ou un autre, se fatiguent dans l'intérêt général, qui passent leur temps, il y en avait encore plein le grand salon hier, qui passent leur temps à monter des programmes, à s'user pour que cette ville vive. Et oui, nous avons la faiblesse, rendez-vous compte, plus 16% ai-je entendu. Oui, j'en suis fier, nous avons la faiblesse de les accompagner, parce que pour 3 sous qui sont mis par la ville, c'est des euros et des centaines d'euros qui sont mis en force de travail, en énergie, en dynamisme, en image de la ville. Et je n'ai pas l'intention de laisser tomber les associations et de me laisser arrêter par des critiques sur les dépenses qui sont faites en faveur des associations. Oui, j'assume ces 16% qui m'ont été reprochés. Maintenant, monsieur Thiel, je reviens sur vos propos passionnants, la crise et le pouvoir d'achat. Est-ce que le fait de faire travailler des entreprises à Metz, pour voir un peu les marchés qu'on a attribués, et je parle de Metz et je parle aussi de Metz Métropole parce qu'on vient d'en attribuer la semaine dernière pour 40 millions d'euros rien que d'un coup pour la piste du Métis. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas donner du pouvoir d'achat? Justement, c'est mettre de l'argent dans la machine économique. Monsieur Sarkozy lui-même me l'a expliqué d'ailleurs, il nous l'a tous expliqué. Et donc ces investissements sont très profitables justement au pouvoir d'achat des travailleurs qui s'investissent dans ces emplois qui sont provoqués par le fait que nous investissons. Même chose avec la vie associative. Croyez-vous que cet argent, les associations le bloquent et le mettent dans un compte bloqué? Pas du tout. C'est du pouvoir d'achat qui est donné aux associations et qui rebondit, bien entendu, dans la ville. Et cet argent-là aussi est un argent qui va directement dans la vie économique et dans du pouvoir d'achat. Maintenant, l'argument qui m'a le plus touché, au fond du cœur, c'est l'argument que on ne fait pas de social ici. J'ai même entendu dire que j'étais socialiste. C'est une information que je confirme. Alors, on ne ferait pas de social ici. Qu'est-ce que sont les associations dont on vient de stigmatiser tout à l'heure les crédits qui ont été augmentés de 16% en trois ans. Ces associations, pour les trois quarts d'entre elles, font justement des actions qui ont un caractère social, qui ont un caractère de mixité sociale, qui ont un caractère de travail dans les quartiers, de lien social. Nous sommes en plein dans le sujet. J'entends d'un côté, vous ne faites pas de social, et de l'autre côté, vous aidez trop les associations, on oublie de dire qu'ils font du social. Mais soyez un peu cohérents. Moi, j'ai l'honnêteté de dire que ces associations-là, c'est la richesse de la ville. De même que je dis que les fonctionnaires sont la richesse de la ville aussi. Et j'assume pleinement le fait que nous ayons une politique sociale. J'ajoute que taper sur le CCAS deux fois, j'ai entendu. C'est pas vous, monsieur Thiel, je le reconnais. C'est pas vous. Mais taper sur le CCAS deux fois, hein, alors que le CCAS a mis en place depuis 2008 pour 1 600 000 euros d'actions nouvelles, dont certaines sont médiatisées, c'est vrai. Que voulez-vous que je vous dise? Donner un coup de pouce aux jeunes qui démarrent dans un nouveau logement, ben c'est bien. Faire le pass loisir, c'est bien. Et tout cela, nous avons créé des espaces de crèche en les faisant financer par les entreprises. Excusez-nous de ne pas avoir dépensé l'argent public. C'est les entreprises qui payent. Mais enfin, vous devriez nous féliciter. J'ai cru qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dirait « Heureusement, les places de crèche, vous avez réussi à les faire financer par les entreprises. » Eh bien, écoutez, vous ne l'avez pas dit, je le dis. Et je félicite Madame Palès parce qu'elle avait comme objectif, sachant que, contrairement à ce qui a été dit, je n'ai jamais critiqué mon prédécesseur sur la politique de la petite enfance. Jamais. Et je l'ai même félicité en la personne de Madame Genet et en public. Je dirais simplement que cette politique, elle doit continuer en utilisant tous les moyens que la loi nous donne pour avoir davantage de places de crèche, avec l'aide d'entreprises, et cela marche fort bien. Et ce n'est pas fini. J'ajouterai que dans ce domaine-là, de plus en plus d'activités de la ville sont cofinancées par des partenaires. Si jamais l'ensemble du monde économique avait la vision que vous avez du fonctionnement de la ville, comment, vous allez le voir tout au long de ce conseil, comment se fait-il que Thomas Scuderi, William Schumann, chaque fois que nous avons une activité à organiser, que ce soit Metz-Plage, que ce soit la Nuit Blanche, le marathon hier, que voulez-vous au premier rang, il y avait des chefs d'entreprise, je suis navré de vous le dire, et il y avait des logos derrière d'entreprises qui viennent s'ajouter à nos efforts pour mettre en place des événements. Et Belkir Belhadad était là, au milieu, de patrons d'entreprises qui étaient bien contents de nous retrouver. Alors, je vais vous dire, effectivement, on est tous socialistes, mais les patrons nous aiment bien quand même. Hein? Alors, je voudrais vous dire que tout ça me navre un peu tant je trouve la critique réductrice. Je voudrais quand même dire deux mots de ce que j'ai senti comme étant des légères contradictions dans les discours. Je ne vais pas rentrer dans les détails des personnes, ça nous emmènerait trop loin. Il y en a qui disent « c'est bien d'investir », il y en a qui disent « où en est la cagnotte ?» Ben, je vais vous dire, on aurait pu effectivement, et là je commence à répondre à Mme Zimmermann, on aurait pu effectivement davantage utiliser la fameuse cagnotte des 45 millions de ventes de 15% du capital de l'UEM. Je rappelle que le reste n'était pas de la cagnotte, c'est de la trésorerie. On a toujours de la trésorerie. Et c'est pas la même chose. Nous aurions pu le faire. Pour ma part, et je vais vous faire une déclaration, je considère que cette cagnotte, elle doit être utilisée progressivement. La dette de la ville est extrêmement basse, ça a été signalé. Elle va continuer à baisser, mais je n'exclus pas, je vous donne une information, je n'exclus pas d'emprunter un peu au taux actuel des possibilités d'emprunt qui sont exceptionnelles, et de garder, jusqu'à la fin du mandat, une partie de cette cagnotte pour l'utiliser progressivement. Mais je suis d'accord avec vous, madame, pour vous dire tout simplement qu'une ville ordinaire, c'est pas une cagnotte et zéro dette, c'est un peu de dette, parce que c'est tout à fait normal d'investir en pensant un petit peu à l'avenir et donc de faire partager une partie de l'investissement par les générations futures. Donc nous sommes dans une situation extrêmement favorable de ce côté-là, tant en matière d'endettement qu'en matière de gestion de cette cagnotte, puisqu'elle est encore là largement et nous allons progressivement nous en servir. Mais j'ai encore signé tout à l'heure des placements à un taux le plus élevé possible pour cet argent. Enfin, avant de terminer, pardon, je voudrais parler d'une chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça, j'adore. C'est la police. Pour moi, la sécurité, c'est une priorité, c'est connu, c'est tous les socialistes sont pareils. Hein. Et pour moi, c'est vraiment la priorité des priorités. C'est le premier dossier, d'ailleurs, dont on se soit occupé d'une façon significative en ce qui concerne le personnel. Alors, je vais vous donner la totalité des chiffres. Il y a actuellement 145 personnes qui portent l'uniforme à Metz. Il n'y a eu aucune baisse de policiers municipaux entre 2008 et 2011. Entre 2008 et 2011. Aucune baisse. Il y en a 145. Il y en a 95 qui sont des policiers municipaux habillés. Et il y a les ASVP. On a embauché 4 ASVP de plus compte tenu des zones à contrôler, ce qui libère d'autant des policiers municipaux qui peuvent faire d'autres travaux. Nous avons mis les gardes champêtres avec la police municipale, parce que tous les gardes champêtres sont assermentés, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, de mon point de vue, ce qui fait que nous pouvons avoir une action efficace, notamment en matière de propreté sur les sacs poubelles. Et enfin, le plus important de tous, nous avons créé des locaux nouveaux. Au lieu que les policiers se baladent entre 5 locaux différents pour aller chercher leurs uniformes ici, leur matériel là, leurs armes, etc., eh bien, ils ont tout sur place. Et maintenant, quand les médecins vont, ils sont très surpris, je vous invite à y aller voir, par la qualité des locaux qui ont été aménagés, ce qui permet, c'était pas dans le compte-rendu, mais je vais vous le dire, ce qui permet de libérer l'équivalent de 3 temps pleins en temps gagné pour s'habiller, se préparer, aller chercher les véhicules, etc. C'est-à-dire que nous avons gagné 3 temps pleins. Malheureusement, excusez-moi de vous le dire, malheureusement, les mêmes 3 temps pleins, je vais les perdre parce que le préfet, c'était celui d'avant, est venu me trouver en me disant, monsieur le maire, l'État s'occupait des objets trouvés. Bien entendu, je ne peux pas continuer. Je suis trop pauvre. Et je vous demande donc de prélever l'impôt qu'il faut sur les médecins pour pouvoir payer 3 temps pleins qui vont être consacrés aux objets trouvés à Metz. Et que voulez-vous que je vous dise, madame Zimmermann, j'adore l'État, si bien que j'ai dit oui, parce que j'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que les objets trouvés, c'est une fonction très importante. Et que comme l'État se désengageait sur un sujet comme celui-là, eh bien, j'ai accepté que la ville se substitue à l'État pour s'occuper des objets trouvés. Et on va ouvrir un bureau des objets trouvés avec 3 emplois. Je terminerai sur la critique de l'État. Madame, nous nous connaissons bien. Je vais rarement aussi loin que vous. Madame, enfin je vous lis chaque fois que vous écrivez en politique. J'ai rarement vu des gens critiquer autant l'État que vous. Je parle bien de l'État actuel, hein. Et vous en faites une gloire. Moi, je vous tire mon chapeau. Moi, je gère le mieux possible dans le cadre des lois républicaines. Je n'ai pas ici l'habitude d'outrepasser les limites de ce qui est normal en matière. Et j'entretiens de très bons rapports avec tous les représentants de l'État, que ce soit le procureur général, le président du tribunal, le directeur des polices urbaines, le secrétaire général, le préfet, tout le monde. Et je le fais dans les meilleurs termes possibles. Cela dit, on peut avoir des désaccords. Moi, je ne suis pas en train de taper tout le temps sur l'État. J'explique. Je sais très bien que l'État est impécunieux et je sais très bien que ce ne sera pas forcément mieux après 2012. Et je me garderai bien... Et je suis loin, loin d'imaginer qu'en un tour de passe-passe, on peut régler tous les problèmes. Si bien que vous me trouverez, quelquefois peut-être, à vos côtés, quand nous aurons gagné en 2012 et que je critiquerai l'État encore un peu. Madame, mais ce que je peux vous dire, c'est que je reste dans le cadre des lois républicaines, que ce que j'explique en matière de budget correspond tout simplement à la réalité et à une autre politique, je l'admets, une autre politique de la ville. Une politique où vous avez, et je conclurai là-dessus, vous avez constaté que nous avons relancé l'investissement, certains le critiquent, d'autres non. Nous avons mis un peu plus de justice dans la gestion du personnel, ce qui était indispensable. Nous avons fait beaucoup de social. Merci Madame Pallez en particulier, mais tous les autres aussi, parce que c'est compliqué. Nous avons demandé un certain effort aux médecins, mais un effort limité, puisque nous sommes encore très en dessous de la moyenne, très en dessous. Quand vous parlez de strates, je parle de strates souvent, nous sommes tout à fait bien placés dans la liste des villes en matière de fiscalité. Et je conclurai que, en matière de gestion, c'est pas mauvais non plus, puisque effectivement, les dépenses que nous avons sont des dépenses qui nous placent également très bien. C'est pour ça que je conclurai, on peut penser ce qu'on veut d'un rapport, moi je suis très content du débat, parce que ça permet de s'expliquer, j'adore. Je vais maintenant m'éclipser, parce que le débat étant terminé, on va procéder au vote, et je n'ai pas le droit d'être présent au vote. Voilà.
Bien, on va laisser le maire se sortir. Bien, je vais procéder, si vous le voulez bien, au vote. Qui vote pour ?
Explication de vote, monsieur le Président.
Explication de vote. Ça m'étonnait aussi, je voyais que... Bien, alors, monsieur Thiel, explication de vote, monsieur Lebeau, madame Zimmermann. J'étais trop généreux, alors, qui est... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, monsieur Thiel, je suppose, pour le groupe, je vais dire de droite, et madame Zimmermann, pour le groupe de gauche. Et madame Pallez, pour notre groupe. Allez-y, alors, je ne sais pas.
Monsieur le Président, je tenais à vous faire part du sens de notre vote, puisque nous ne l'avons pas indiqué jusqu'à présent. Je voudrais néanmoins assortir mon propos en vous disant que j'ai été extrêmement choqué de l'intervention du futur président du groupe socialiste qui avait rédigé un papier avant même que nous nous soyons prononcés les différents orateurs pour dire que nos chiffres étaient mensongers. Donc il a lu un propos disant que nos chiffres étaient mensongers alors même que les chiffres que nous avons cités, alors que lui n'en citait aucun à l'appui de son propos, les chiffres que nous avons cités sont les chiffres...
On a l'impression qu'il a écrit pendant que vous écriviez, pendant que vous parliez, pardon.
Je répète que les chiffres que nous avons cités ici sont les chiffres de votre propre rapport. Donc si monsieur Hassan Lokadir, futur président du groupe socialiste, estime qu'ils sont mensongers, je leur envoie à ce qu'il a dit, les chiffres de votre rapport le seraient-ils donc ? C'est une question. Deuxièmement, je voudrais très violemment et vigoureusement dire qu'il est scandaleux que monsieur le maire nous fasse tenir des propos que personne sur ces bancs n'a tenus en ce qui concerne les fonctionnaires. À quel moment avez-vous entendu sur ces bancs une critique quelconque de l'action des fonctionnaires ? Au contraire, nous voudrions dire que je le suis moi-même d'ailleurs, bon, qu'ils sont au service de la population et que nous leur rendons souvent, je dirais, grâce pour tout ce qu'ils font. Ce qui a été mis en cause, Monsieur le Président, pour être très très clair, c'est les dépenses de fonctionnement, parmi lesquelles il y a les dépenses de personnel qui, je le répète, ont augmenté de plus de 8%, et d'autre part les dépenses de gestion courante qui ont augmenté de 16,3%, et tout ça alors même que les prélèvements que vous avez faits fiscalement ne suffisent même pas à augmenter toutes vos dépenses de fonctionnement. Et j'ai assorti mon propos que j'ai cru mesurer.
Alors, l'explication de vote, s'il vous plaît, M. Thiel, parce que là, vous partez sur des considérations très générales. Je vous demande d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire à l'explication de vote.
Ne prenez pas modèle sur votre successeur, il est encore jeune, il apprendra, mais vous. Hein, bon. Alors, je voulais vous dire qu'il y a quand même... Je sais que ça vous dérange qu'on revienne, parce que vous, vous avez la possibilité. Non, non, il n'y a pas l'heure, on a le temps. Vous avez mis à 15h, on a tout le temps.
Monsieur
ce que
Thiel,
je voulais vous dire, c'est que c'est facile.
Presque une demi-heure.
C'est facile de stigmatiser des propos qu'on n'a pas tenus, de les inventer, et après d'interdire qu'on puisse y répondre.
Allez-y.
C'est même démocratiquement scandaleux. Bien.
On vous a entendu. Qu'est-ce que vous votez?
En fait, je voudrais dire... La chose suivante, c'est que nous n'avons jamais mis en cause des fonctionnaires qui exercent, mais nous avons mis en cause une gestion. Et compte tenu de cette gestion qui n'est pas une bonne gestion, parce que quand on dépense plus que ce qu'on prélève dans la poche des médecins, dont on réduit le pouvoir d'achat, je dis que nous ne sommes pas face à une bonne gestion, nous voterons contre le budget administratif.
Bien, le contraire nous aurait étonné. Madame Zimmermann, s'il vous plaît.
Voilà. Bien, monsieur le premier adjoint, je souhaiterais d'abord vous dire que, au niveau des chiffres de la police municipale, écoutez, moi je prends ce qui est. Alors, le compte administratif.
Vous
n'allez
pas refaire le débat, là. Expliquez-vous. Sinon, je vais reprendre les.
Antoine, s'il vous plaît. C'est moi le président de séance, je vous prierai de ne pas intervenir.
Vous avez 90,
Madame Zimmermann, vous avez la parole.
98, ensuite 2010, 92. 98 moins 92, ça fait 6 chez moi. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, monsieur le premier adjoint, je suis profondément choquée. Mais profondément choquée par le fait que monsieur le maire ait trouvé dans les propos que nous avons tenus les uns et les autres des critiques contre les fonctionnaires. Parce que c'est trop facile d'utiliser des arguments lorsqu'ils sont enregistrés en plus pour discréditer son opposition. Je crois que ça commence à bien faire ce cinéma-là. Je vais vous dire une chose, nous avons toujours eu, les uns comme les autres, un profond respect d'abord des services. Et nous avons chaque fois, avant chaque intervention, rendu hommage aux services. Lorsque, à la qualité des services, à la qualité des documents, et ce que nous contestons aujourd'hui, c'est l'interprétation qui est faite de ces documents, les interprétations qui sont données par les uns et les autres, à la fois pour salir l'État, pour salir telle et telle personne. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas comme ça que je conçois la démocratie. Je crois que, sincèrement, là où l'État peut aider, l'État aide, et vous le savez aussi bien que moi. Patrick Thiel a mis en avant les difficultés économiques qu'aujourd'hui tous les pays rencontrent. Je ne souhaiterais pas qu'un jour, simplement, Metz devienne la Grèce.
Eh ben, nous n'en sommes pas loin, madame. Si vous lisez le Figaro d'aujourd'hui...
Oui, mais simplement...
Monsieur Fonté, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole.
Simplement,
Madame Zimmermann, quel est votre vote, s'il
vous
plaît ?
Mon vote, c'est tout simple, c'est exactement le même que celui de Patrick Thiel. Et je souhaiterais, monsieur le premier adjoint, qu'on arrête d'interpréter nos propos.
Merci. Je donne la parole à Madame Palaise.
Ah non, moi j'ai encore...
Ah pardon. Alors, une seule explication de vote. Non.
Rappel au règlement, monsieur Hettner.
Je vote différemment, j'ai le droit.
Alors, s'il y a un vote différent, allez-y. S'il y a un vote différent, allez-y.
Simplement, par honnêteté avec moi-même et n'ayant pas siégé en 2010, et n'ayant pas reçu consigne de vote de Denis Jacquat, je m'abstiendrai.
Merci. Merci, monsieur Etner.
Voilà.
Madame Palès, pas de commentaires, on ne va pas en rajouter. On reste calme. Je crois que l'essentiel a été dit au cours de la séance. Donc, Madame Palès.
Et le vote du groupe Ensemble pour l'avenir de Metz. Je veux simplement deux petites remarques préliminaires. La droite aime tellement les fonctionnaires qu'elle n'en remplace pas un sur deux quand ils parlent à la retraite et en particulier supprime des postes dans les écoles messines. C'est sûr. Excuse-moi, nous bon, sommes en
allez,
France.
Allez, allez.
Deuxième
Madame,
chose.
Madame Palès.
Deuxièmement. S'il vous plaît.
Calmez-vous.
Laissez parler l'orateur.
C'est moi qui rappelle. Voilà. Madame Palès a la parole.
C'est vrai, des fois, monsieur Lebeau, j'ai l'impression de ne pas être sur la même planète que vous, c'est vrai.
Madame Palès.
Deuxième point, je voudrais dire que ce que monsieur Lecadir a dit, monsieur Lecadir a dit, c'est que nous n'avons pas dit que les chiffres que vous présentiez étaient faux, c'est l'interprétation que vous en faites. Bien évidemment, tout le monde est capable de faire dire des tas de choses aux chiffres. Quand vous ne tenez pas compte dans l'augmentation des impôts, de l'augmentation des bases qui est décidée par l'État, je pense que effectivement vous manipulez, mais nous n'en attendions pas moins de vous. Et maintenant, je voudrais dire que le groupe Ensemble pour la ville de Metz, pour l'avenir de Metz, votera pour ce compte de fonctionnement.
Bien, pour l'avenir et pour la ville de Metz, bien évidemment, on avait compris. Je voulais juste faire une intervention avant que nous passions au vote. Madame Zimmermann, je n'ai pas entendu, pour ma part, dans la bouche de Monsieur le maire, de propos remettant en cause l'État. Et je peux vous dire que s'il y a bien quelqu'un ici qui est très républicain et très respectueux de la parole de l'État, c'est Monsieur le maire. Voilà. On va passer maintenant au vote, si vous voulez bien. Donc, un petit peu volontairement, je vais demander qui vote pour dans cette assemblée. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Demandez à Monsieur le maire de revenir prendre la présidence pour le prochain point à l'ordre du jour. Merci.